Vous aimez rassembler ? Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle ? Vous en avez peut-être même fait votre métier ? Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. Oyez, oyez, chers auditeurs et chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Licorne. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer David Chocard, qui est fondateur d'Anestio, où, entre autres, il offre ici des cérémonies laïques, accompagne des personnes à sortir de la solitude et guide aussi des très belles méditations, notamment sur le thème de l'autocompassion. Bonjour, David.
Bonjour, Lily.
Alors, David, tu as une anecdote assez chouette à nous raconter sur toi. J'avais pas envie de la raconter moi-même par peur de déformer ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment particulier que tu avais vécu en Indonésie?
Alors, j'ai passé quelques temps en Indonésie, en effet, et là-bas, les filles et les femmes trouvent que les blancs sont très beaux, en particulier parce qu'ils ont des longs nez. Et une fois, j'étais dans un restaurant, et puis j'avais 3-4 serveuses autour de moi, on discutait, et puis elles me disent « Oh, vous avez un grand nez, tout ça !» Et donc, je leur dis « Vous voulez mon nez ?» Et puis je leur fais le geste qu'on fait en France aux petits-enfants, à savoir, je fais semblant de prendre mon nez, et je passe mon pouce entre mon index et mon majeur en fermant mon poing, en disant « Tenez, voilà mon nez !» Et puis elles deviennent toutes gênées, toutes embarrassées, tout ça. Je lui dis « J'ai dû faire une gaffe quelque part. » Et puis je rentre au foyer où j'habitais, et puis je demande à mon collègue indonésien « Est-ce que ce geste-là, ça veut dire quelque chose de particulier ?» Il me dit « Oh là là, mais oui, c'est un geste hyper sexuel !» Voilà, les joies de l'interculturalité.
Merci David, et en effet, tu as passé 7 ans en Indonésie, donc je pense que tu aurais des tonnes d'anecdotes à nous raconter là-dessus.
Ah oui.
Bon, ça va pas être le sujet du jour pour le coup, mais ça aurait pu être un autre sujet pour le podcast. Mais aujourd'hui, on va parler de mariage laïque. Tu vas nous raconter l'histoire d'un mariage que tu as officié en septembre de l'année dernière. J'ai hâte que tu nous racontes ça. Et avant qu'on plonge dans ce sujet, j'ai, attention, roulement de tambour, la question improbable, la question brise-glace du jour. Est-ce que tu es prêt ?
Oui, je suis assis.
Ouf, attention, la question en plus est d'un niveau assez élevé pour aujourd'hui. La question c'est, est-ce que tu peux me décrire une de tes saveurs Madeleine de Proust ?
Ma grand-mère faisait des gâteaux sans farine à la noix de coco. Et ma femme nous en a fait il n'y a pas très longtemps. J'en avais pas mangé depuis des années, des gâteaux comme ça. Et paf, c'était direct. Madeleine de Proust, là, pour le coup, c'était ma grand-mère, ma mamie gâteau, qui nous faisait des gâteaux tous les dimanches. Et oui, voilà. Donc, le gâteau sans farine à la noix de coco, avec un enrobage de chocolat et des petites crottes en chocolat, ça, c'est ma mamie.
Ah, ça va me donner faim. Je ne sais pas pourquoi je vais poser cette question. Alors, on va rentrer dans le sujet. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de mariage et j'avais envie de te poser la question que se posent tous les couples qui se sont mariés ou qui se marient à un moment. Qu'est-ce que c'est le mariage pour toi ?
Le mariage pour moi, en tout cas la célébration de mariage, c'est un moment de partage d'un bonheur profond. Et c'est... Oui, c'est célébrer le bonheur qu'on vit à deux. Et un bonheur qui est vrai et profond pour moi, et naturellement, il se partage. Et voilà. Et le mariage permet de socialiser notre bonheur. Et du coup, non seulement c'est naturel pour un bonheur vrai que de se partager, mais en le partageant, ça déploie encore plus ce bonheur.
Merci. Et donc, tu me disais en septembre 2020, tu as officié un mariage qui a été apparemment assez fort, assez beau pour toi. Je vais te laisser le micro pour que tu nous racontes l'histoire de ce mariage, donc ce qui s'est passé, qui y était, ce que tu y as vécu. Je te laisse nous plonger dans cette belle histoire.
Alors, il était une fois Roméo et Juliette, on va les appeler comme ça. Je connaissais Roméo déjà depuis quelques années Et je l'ai connu notamment, quand je l'ai connu, il était en plein milieu, il se battait contre un cancer. Sa femme l'avait quitté. Et après des années de très compliquées, de violence conjugale de sa part à elle. Voilà. Et puis, donc c'est un couple que je connais depuis un bout de temps. Ensuite, j'ai fait connaissance de Juliette. Et Juliette qui sortait aussi d'une relation compliquée. Voilà. Et j'ai pu, en tant que connaissance d'abord, ami ensuite, voir cet amour-là s'épanouir petit à petit. Mais avant que ça soit l'amour qui s'épanouisse, c'est les humains qui se sont remis debout, quoi. Physiquement déjà pour Roméo qui est malade du cancer. Et puis, plus largement humainement aussi, après cette relation qu'il avait mis par terre. Et puis, elle aussi, qui, petit à petit, a osé ou a réussi, enfin, c'était très long, à accueillir sereinement cet amour-là, sans culpabiliser d'avoir mis fin à la relation précédente qui l'a minée aussi. Donc, il y a eu tout cet avant qui a participé au fait que le jour J, c'était particulièrement fort. En plus, il y a le contexte du Covid qui fait que la célébration a dû être repoussée. Donc, quand enfin, Roméo et Juliette ont réussi à trouver une date, un moment, à réinviter tout le monde pour le faire, c'était d'autant plus joyeux et fort. Mmh. Voilà, le jour J, donc c'était un mariage qui s'est fait en plein air. Donc, j'officie dans le nord de la France, mais ne vous en déplaise, il faisait très beau. Et il y avait une petite centaine de personnes dans le parc, à côté du lieu de réception, avec une décoration jolie mais très sobre. Voilà, c'est des familles qui roulent pas sur l'or. Alors, il y a mon ressenti, mais il y a peut-être d'abord surtout le ressenti général des gens qui étaient là, qui ont dit aux mariés, et puis qui m'ont dit aussi à quel point ils avaient été touchés par l'émotion, la sincérité, la profondeur de ce qui s'était vécu là. Les mariés me l'ont dit aussi, et moi je l'ai senti. Et d'habitude quand j'officie, il y a un côté maître de cérémonie où on se met un petit peu en retrait de l'émotion de l'assemblée. Mais là, voilà, à plusieurs reprises, j'ai moi-même eu les larmes aux yeux tellement c'était beau ce que je voyais, quoi. Qu'est-ce qui a fait que c'était un beau moment? Il y a plein d'éléments. Il y a l'histoire du couple, comme je l'ai dit, et je pense que ça a été la raison principale pour laquelle c'était si beau, c'est que j'ai vu un couple mûr dans son amour et se dire oui. Et ça, c'était oui, particulièrement flagrant, et notamment à l'échange des consentements, comme on dit, quand ils se demandent en mariage et qu'ils se disent oui. La mariée, elle, avait écrit un texte qu'elle avait dit, qu'elle a lu à son mari, et qui était très très beau et qui sonnait très très juste. Voilà, la connaissant comme je la connaissais, voilà, c'était pas du... Voilà, ça sonnait juste, c'était vrai, elle cachait rien elle a un caractère assez affirmé et elle le cachait pas. Et lui, de son côté, a dit pourquoi il l'aimait et pourquoi il a demandé un mariage sans papier et avec une grande émotion. Et pareil, ça sonnait juste, ça sonnait mûr, ça sonnait en même temps humble, voilà. Avec leur histoire, ils savaient que rien n'est gagné d'avance et voilà, il n'y avait pas d'esbrouffe. Donc il y a d'abord la vérité de l'amour de ce couple qui a fait que c'était un moment particulier. Ensuite, il y a l'atmosphère musicale aussi. Il y avait des chouettes musiciens. Là aussi, ça fait une atmosphère. Il y avait les familles, notamment sa famille à elle qui est très très portée sur la fête, qui n'ont pas peur d'exprimer leurs émotions aussi, qui a créé une ambiance. Et puis, il y a aussi mon rôle de, d'officiant. C'est toujours un peu difficile de se lancer des fleurs, mais en tout cas, voilà, on a tous assisté à des mariages ou même à des soirées où il y a un maître de cérémonie. Et c'est vrai que le ton employé par le MC, par le maître de cérémonie, son attitude fait beaucoup pour l'ambiance générale, la manière dont il réagit, dont il rebondit à ce que les gens disent. Et là, voilà, il y a eu comme une osmose qui a fait que ça a pris, quoi. Pour moi, quand j'officie, c'est un peu naturel, mais en tout cas, j'ai déjà, comment dire, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le maître de cérémonie qui est la star du jour. J'ai déjà vu des mariages où le MC faisait sa star et ça sonne pas juste. Je dirais la star, c'est même pas le couple. Voilà, il arrive que dans des mariages, j'en ai fait beaucoup, et dans des mariages, voilà, c'est arrivé que la mariée faisait un peu sa starlette. Et là, enfin, en tout cas pour moi, lors d'une cérémonie de mariage, la star c'est ni le MC ni le couple, mais je dirais c'est l'amour qu'on partage, c'est ce qui circule entre les gens au sein du couple, avec les gens qui sont là, avec le maître de cérémonie aussi. Et là, il y avait comme une ouais, cette vérité dont je parlais dans le couple qui a rejailli sur tout le monde, et tout le monde était voilà, avait envie de faire de partager cette expérience, quoi, de pas être spectateur, mais de partager cette expérience là. Et puis les mariés avaient créé la cérémonie ensemble, et ils avaient voulu justement que ça soit un temps de partage avec tous, pas seulement eux deux. Et donc ils ont fait des gestes, par exemple en termes de partage avec l'assemblée. Ils avaient choisi un geste avec des bougies. Ils avaient donc une bougie qui représentait leur couple, que l'un et l'autre ont allumé avec un petit cierge. Puis ils ont demandé à leurs enfants, ils avaient trois enfants présents. Les trois enfants ont allumé leur petite bougie à la bougie de couple. Puis ils ont demandé à des personnes représentant les enfants qui étaient absents. Il y a eu deux enfants de mort-né, et puis le marié dans sa précédente union avait une fille, mais la situation était tellement compliquée que sa mère encore aujourd'hui empêche le marié de ce jour de voir sa fille. Et donc il y avait une bougie qui représentait cette fille là aussi. Voilà, donc ça élargissait le cercle. Et ensuite, pour symboliser que c'est cet amour, donc symbolisé par cette flamme, se partager avec les gens qui étaient là, les témoins, en tant que représentants de l'assemblée, ont aussi allumé une bougie à la bougie de couple. C'était un moment très très fort, en plus fait en silence, donc les gens étaient d'autant plus sensibles à ce qui se passait et ressentaient d'autant plus cette flambée d'amour, quoi. J'allais dire cette coulée d'amour, mais une coulée c'est plutôt liquide, mais en tout cas qui venait de l'amour du couple, ce grand beau cierge, et qui se répandait sur les enfants et sur l'assemblée via les témoins. Là, c'était un des moments forts de cette célébration-là, où tout le monde a vibré ensemble, quoi.
Est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça, des moments des moments symboliques ou des moments un peu plus rituels ou sacrés dans cette cérémonie?
Oui, y a deux gestes qui ont été assez forts pour eux et aussi pour moi. Ils m'avaient demandé de leur imposer les mains, c'est-à-dire que je pose doucement mes mains sur leur tête, à l'un et à l'autre, qui est un geste dans beaucoup de religions ou de spiritualité, qui est un geste de bénédiction. Et c'est un geste que j'adore faire, j'avoue. Et voilà, c'est un geste, j'allais dire, qui dure pas longtemps, hein, mais il s'agit, voilà, j'ai posé mes deux mains doucement sur la tête de le marié, en silence, en me recueillant, voilà, puis en leur disant, en leur sentant dans mon cœur, quoi, des belles choses, puis ensuite au marié, ça c'était un moment très fort pour moi aussi, de communion entre eux et moi, et puis ouvert à plus, quoi, au souffle, ouvert à... Et un autre beau geste aussi, ça a été, ça c'est un geste que j'aurais suggéré, qui vient de Thaïlande, où j'ai habité aussi, c'est de verser de l'eau sur les mains en signe de purification et de bénédiction. C'est en Thaïlande, lors du Nouvel An bouddhiste, il y a cette tradition d'aller verser de l'eau sur les mains des anciens ou des gens qu'on respecte et qu'on honore, en signe de, voilà, de purification et de bénédiction. Et donc, il m'avait demandé de verser de l'eau parfumée comme ça sur leurs mains. Donc ils avaient entremêlé leurs quatre mains et demandé que je verse de l'eau dessus en leur disant des paroles de bénédiction sur eux puis sur l'arbre. Donc c'était ce côté spirituel de la célébration. Et aussi un des éléments, pardon, il est aussi un des éléments, voilà, qui a participé à cette ambiance particulière et si belle, quoi. Ça a mis de la profondeur, enfin, à la fois de la profondeur, ou en tout cas, ça a élargi, ça a comme élargi ce moment-là à, comme je disais, au souffle, ou à l'infini, ou je sais pas comment dire, ou au cosmos, en tout cas. Ça a rajouté encore une dimension supplémentaire. C'était pas seulement horizontal, il y avait aussi une certaine verticalité vers le transcendant, quoi.
Et ça ouvre à quelque chose de plus grand que soi et plus grand que les personnes qui sont là. Et...
Oui, et puis c'était naturel. Voilà, c'est des choses dans les églises. C'est cette dimension transcendante et voilà, fait partie du rite, mais voilà, dans ici, on n'était pas dans une église. Je suis pas prêtre, mais en même temps, ça sonnait juste parce que pour eux, leur source d'amour, comment dire, la source de leur amour les dépasse, quoi. Et ils voulaient manifester ça d'une manière ou d'une autre.
Et dans toute cette cérémonie, donc il y a pas mal de rituels dont tu nous as parlé, des rituels qui viennent. Voilà, parfois, en tout cas, qui sont utilisés dans certaines religions, d'autres rituels qui sont un peu plus, qui viennent plus d'inspiration laïque, peut-être. À quel point est-ce que tu as dû préparer tout ça? Tu vois, est-ce que c'est des choses qui sont venues des mariés, de toi? Est-ce que tu as fait de l'accompagnement auparavant à la cérémonie?
Oui, je pense qu'une des clés d'un beau moment comme ça, c'est ce qui se vit en amont. Dans la préparation, justement. Enfin, même avant ça, je dirais, il y a... pour moi, chaque fois que je prépare un couple, la première rencontre, on fait connaissance. Je me souviens, quand j'étais en Asie, là, je travaillais pour une ONG, et puis il y avait un gars qui travaillait dans les Philippines. Au sud des Philippines, où il y a, à cette époque-là, c'était au début des années 2000, il y avait le groupe Abu Sayyaf qui sévissait. C'était des terroristes islamiques. Et donc, ils travaillaient là-bas et ils travaillaient dans le dialogue entre les religions. Et ils me disaient, donc ils avaient réussi à constituer un groupe avec 6 chrétiens et 6 musulmans pour qu'ils se rencontrent. Et il m'a dit, pendant un an, on n'a rien fait d'autre que se voir toutes les deux semaines ou tous les mois, je ne sais plus. Et je les ai forcés à s'asseoir l'un en face de l'autre, deux par deux, genou contre genou, et à se parler pour faire connaissance, les yeux dans les yeux. Et après seulement, on a commencé à parler de religion, tout ça, mais d'abord, il s'agissait de se connaître. Et ça m'a marqué cet exemple-là, c'est un peu extrême, mais vu la situation à l'époque. Enfin bref. Et donc là, moi aussi, quand je prépare un couple, il me semble vraiment important de se connaître. Et voilà, donc dans l'amont, il y a se connaître. Ensuite, il y a effectivement un échange sur... qu'est-ce que vous voulez exprimer et quels sont les gestes qui pourraient exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Alors, suivant les couples, ça dépend. Parfois, ça, c'est, ils ont vu sur un site qu'il y a, il y a des gestes qui existent et ils y trouvent du sens. Parfois, ils disent, bah, tiens, il y a le geste du sable, est-ce qu'on pourrait le mettre? Bah, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Et je creuse le sens. D'autres fois, en fonction de ce qui, de ce qu'ils me disent, voilà, comme j'ai un petit peu de métier, je leur dis, bah, tiens, on pourrait inventer un geste comme ça qui ritualiserait un petit peu votre, ce que vous avez envie d'exprimer. Par exemple, il y a eu un autre couple, ils avaient aussi une vie compliquée, et lui avait 55 ans et elle 56 ou 57, et puis ils avaient été veufs tous les deux, et puis elle divorcée une fois, bref, et puis, donc on a, en les écoutant, ils me disent, ah oui, c'est comme une nouvelle page qui se tourne. Et puis, elle se reprend, elle dit, non, non, c'est pas une nouvelle page, c'est un nouveau livre. Et donc, pendant la cérémonie, il y a eu un moment où j'avais demandé d'amener deux livres, un vieux livre et puis un beau livre. Ce vieux livre-là, j'aurais proposé qu'on, non pas qu'on le mette au feu tout entier, parce que dans ce vieux livre, comment dire, qui symbolisait leur ancienne vie, il y avait eu des belles pages, à savoir leurs enfants. Et donc dans ce livre, ce moche livre, on avait arraché quelques pages qu'on avait brûlées, mais on avait gardé les belles pages qui symbolisaient les enfants. Et ensuite, on avait ouvert le nouveau livre qui était un beau livre et qui a été le livre d'or de la cérémonie. Voilà, donc les gestes, soit on les crée sur place, soit on prend ceux qui existent et on se les approprie.
C'est magnifique. C'est très inspirant pour moi, merci. Et pour prendre du recul, pour toi, quel est le secret, le côté, c'est le moment licorne, pour toi, quel est le secret qui a fait que ce mariage-là, le mariage de Roméo et Juliette, a été un moment extraordinaire?
Il y a plusieurs éléments. Il y a le compagnonnage humain. C'est pas juste une prestation que je donnais. Un peu froidement, quoi. Il y a eu un vrai, comme une osmose entre eux d'abord, et puis entre eux et moi. Il y a ce souci que tout ce qui est dit et tout ce qui est fait fait sens. On plaque pas des trucs qui n'auraient pas de sens pour soi et qu'on fait parce qu'il faudrait les faire. Ça, c'est aussi une clé. Tout ce qu'on se dit et tout ce qu'on fait a du sens. Ça résonne dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut exprimer. Ensuite, je pense que c'est un élément important. Au début de la célébration, je leur ai dit, j'ai dit à l'assemblée, ici, vous pouvez. On n'est pas. Comment dire lors des mariages à l'église, la plupart des gens, voilà, vont pas souvent dans les églises et sont un petit peu, comment dire, mal à l'aise, ils savent pas trop comment ils peuvent se comporter, comment ils doivent se comporter, etc. Et donc je leur ai dit, ici on n'est pas dans une église. Si vous avez envie de rigoler, ben riez. Si vous avez envie de pleurer d'émotion, pleurez d'émotion. Sentez-vous libre d'applaudir si vous êtes heureux ou et c'est tout bête mais voilà ça libère quelque chose dans l'assemblée ça. Quand le maître de cérémonie les autorise à être eux-mêmes tout de suite ça crée quelque chose. Ils sont pas là pour assister quoi pour être là, mais ils sont là pour expérimenter, partager quelque chose avec le couple.
J'ai des couples autour de moi qui sont en préparation de mariage et je pense très fort à eux en enregistrant cet épisode avec toi. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Ces deux couples qui vont faire tous les deux des cérémonies laïques, un couple qui va se faire accompagner par des membres de la famille et des amis, et un autre couple que j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accompagner sur leur cérémonie. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner pour préparer ces moments-là?
Ouais, le premier, ce serait tâcher de rester vous-même. La célébration que vous allez créer, créez-la vraiment. Faites pas les choses parce que ça se fait, ou faites pas les choses parce que vous avez lu que c'est chouette. Faites pas les choses parce qu'un autre couple l'a fait. faites-le seulement si ça fait sens pour vous, si ça résonne en vous. Et alors, la célébration, ça sonnera juste et vous y sentirez vraiment bien, quoi. Ouais, il y a ce souci, mais même cette exigence d'être vrai. Avec ce que, et du coup, moi aussi, c'est pour ça que c'est une des raisons qui m'a poussé à être officiant de mariage laïque, c'est que, pour préparer cette célébration, pour que ça sonne juste, pour que ça fasse sens, naturellement, on est renvoyé à ce qu'on veut y vivre, ce qu'on veut y montrer, ce qu'on veut y partager. Et du coup, finalement, où est-ce qu'on en est notre amour? Il est comment notre amour? Ouais, comment je t'aime? Pourquoi je t'aime? En vue de quoi je t'aime? Et c'est si on arrive à cette profondeur-là dans la préparation, pourquoi je t'aime? Ensuite, les textes qu'on va lire, les personnes qu'on va faire intervenir, les gestes qu'on va poser vont découler de ça. Ouais, quelque chose comme ça. Aray Pramanan, c'est une expression thaïlandaise. Quand les Thaïlandais parlent assez peu de ce qu'ils pensent vraiment. Et quand ils essayent, et ben à la fin, ils disent toujours cette expression, Aray Pramanan, qui veut dire bon, c'est à peu près ce que je veux dire. C'est vrai, quand on essaie d'exprimer des choses profondes, c'est pas facile toujours de trouver les mots justes. Mais voilà, ouais, il y a cette exigence de creuser ou de mettre en lumière notre amour de couple, et alors assez naturellement on dira bah oui tiens le partager de la lumière ça fait sens parce que ton amour m'illumine quoi, ou ce texte là de Jacques Brel par exemple, oui ça fait complètement sens, c'est vraiment ce que je ressens pour toi ou ce que je veux vivre avec toi, voilà mon vieil amant, tout ça.
C'est beau. On arrive doucement sur la fin de cet épisode. Si des auditeurs, des auditrices ont envie de te rencontrer, de te retrouver, peut-être de te proposer d'être leur officiant de cérémonie laïque, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, j'ai un site internet, c'est anestio.fr. Anestio, c'est A-N-E-S-T-I-O. Anestio.fr. Et puis sur le site, il y a mon numéro de téléphone. J'ai une page Facebook aussi, c'est Anestio Lille. Voilà, donc j'habite dans le nord, hein, à côté de Lille. J'officie essentiellement dans les Hauts-de-France et puis en Belgique, qui est tout près. Mais après, suivant mon emploi du temps, ça peut se célébrer ailleurs. Et alors après, ça arrive aussi que le couple souhaite que ce soit un ami proche ou un membre de la famille qui officie. Et donc dans ce cas-là, je propose aussi de créer avec eux la célébration. Et ensuite, c'est quelqu'un d'autre qui officie, puis je peux coacher l'officiant si nécessaire.
Génial. Et tu as aussi écrit un livre, Ne te refuse pas le bonheur, la douce bienveillance envers soi. Je mettrai le lien dans les commentaires pour ceux qui ont envie de continuer à échanger avec toi en te découvrant par l'écrit. Et pour le moment de fin, c'est le moment de dédicace. Et je te propose de remercier... de parler de quelqu'un qui t'inspire ou qui t'a inspiré autour de ce sujet.
Eh bien, je fais une dédicace à Raphaël Buise. Raphaël Buise est prêtre, il habite dans le nord aussi. C'est pas un ch'ti, c'est un flamand, il est français, mais... Et c'est un gars extraordinaire que je connais depuis que je suis étudiant. Et lui, il a sa manière d'être, de célébrer. Donc lui, il célèbre dans les églises, évidemment. Pour lui, c'est clair et évident que la foi, elle est là pour déployer l'humain. Elle est au service de l'humain. On n'est pas là pour faire des rites, pour faire des rites. Et du coup, il a un langage, il a une manière d'habiter les gestes qu'il pose, qui sonne juste, quoi. Et qui rejoignent les gens. Et pour moi, c'est vraiment un modèle, encore aujourd'hui.
Merci beaucoup, David, pour ton partage à cœur ouvert. C'est des trésors que tu nous as livrés là. Je te remercie pour les deux couples d'amis qui vont se marier. Pour moi-même aussi, pour toutes les inspirations que tu as données. Et ouais, merci de nous avoir partagé tout ça. Et chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt.
Merci Lily, au revoir tout le monde.